Bonjour, vous êtes sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans, et c'est Clap, Clap, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité cinématographique des écrans Manceau, avec autour des micros Pierre Barry.
Bonjour.
Bonjour Pierre et Michel Lafont. Cette semaine, seulement 6 nouveautés sur les écrans Manceau, on se croirait en période de Festival de Cannes. Il y avait Mickey 17, Black Dog, Le Secret de Khéops, le Système Victoria, alors ça c'est 4 films, on les a vus, mais on n'a pas vu In the Lost Lands, ni Dans la cuisine d'Nguyen. Pour la programmation musicale, c'était un peu compliqué parce qu'il y a très peu de chansons dans les films que j'ai vus. Enfin, il y en aura une quand même. Mais sinon, bah, écoutez, on va écouter de la musique de film. Et dans Mickey 17, on a de la musique de film en abondance. Le compositeur, je ne le connaissais pas. C'est Jung ou Jung. Jung, on doit dire, c'est chinois ou japonais. Jung Jaeli. Et on commence par un titre qui s'appelle Bon Appétit. Et c'est sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. Bon appétit, parce que c'est dit comme ça dans le film. C'est un titre que l'on entend dans le film Mickey 17 et le compositeur, alors J-U-N-G, Jung, Jung, je ne sais pas, Jaeli, J-A-E-L-I, Jaeli, Jaeli, je ne sais pas. Bon, bref.
C'est coréen, apparemment.
Je pense, oui, certainement, oui. Le film Mickey 17 est proposé au Pathé Quinconce, au Méga CGR et au cinéaste uniquement de la version originale. Au Pathé Quinconce et au Méga CGR, il y a de la VO et de la VF. Le réalisateur, ben, Bong Joon-ho, acteur, réalisateur, scénariste sud-coréen, né en 69. Son premier long métrage avait été distribué en DVD, et puis en 2003, Memories of Murder. 2006, The Host. 2009, Mother. 2013, Snowpiercer, le transpersonnage, avec Chris Evans et Jamie Bell. 2017, Okia, pour Netflix, avec Tilda Swinton, Jake Gyllenhaal, et puis le film qu'il a vraiment révélé au grand public, enfin, Snowpiercer, c'était déjà pas mal, hein. C'était en 2019, Parasite, qui a obtenu la Palme d'Or.
Oui.
Alors, il faut savoir que le film est sorti en version couleur, et puis ensuite, les versions noir et blanc.
Ah bon?
Ben oui, 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 absolument.
Ben, je l'ai vu, moi, en tout cas.
Ah ben, moi, je l'ai vu, c'est sûr, mais je l'ai vu qu'en version couleur, j'ai pas été besoin de le revoir en version noir et blanc.
Non.
Alors, Pierre, Mickey 17, à toi de nous en parler.
Alors, durée 2h17, avec Robert Pattinson, Naomi Aki et Steven Yeun. Le synopsis, héros malgré lui, Mickey Barnes se tue à la tâche, littéralement. Car c'est ce qu'exige de lui son entreprise, mourir régulièrement pour gagner sa vie. La revue de presse, Ouest France avec Thierry Chaise, une fable de science-fiction aussi spectaculaire que virtuose. 20 minutes avec Caroline Vier, cette fable aussi drôle que cruelle, amuse tout en faisant réfléchir. Elle, avec Françoise Delbecq, à la fois film noir et comédie, cette dystopie aux conditions climatiques extrêmes porte avec originalité un message écolo sur l'homme. L'humanité avec Sophie Joubert, après le succès de Parasite, Bong Joon-ho signe une fable drôle et glaçante sur le fascisme et le transhumanisme. La Croix avec Cécile Rouden, une satire politique à la férocité jouissive. Le Journal du Dimanche avec Stéphanie Belpèche, farouchement singulière, audacieuse et excessive, cette fable se situe à la croisée des genres, convoquant le récit d'anticipation, le film de monstres et même la farce burlesque. Le Parisien avec Michel Valentin, une charge parfois un peu lourdingue et bouffonne, mais salutaire, et surtout qui se retrouve littéralement percutée par l'actualité. Première avec Pierre Lune, en embrassant les codes du blockbuster hollywoodien tout en les subvertissant de l'intérieur, il signe peut-être son œuvre la plus ambitieuse à ce jour, une réussite d'autant plus remarquable qu'elle s'inscrit dans le système même qu'elle critique, prouvant qu'il est encore possible de faire un cinéma de résistance au cœur de la machine hollywoodienne. La Tribune du Dimanche avec Charlotte Langrand, après une folle première partie mêlant humour noir, satire des illuminés de la tech et du trumpisme et angoisse existentielle, ce blockbuster à tiroir se concentre sur le spectaculaire et les effets spéciaux l'emportent dans la plus pure tradition du film de divertissement. Et je vais terminer par ceux qui ont beaucoup moins aimé.
Et il y en a.
Le Point. Malgré la maestria formelle de l'attachant cinéaste coréen, nous n'avons hélas pas été transportés au 7e siècle, par cet envolé cosmique, parasité par les grimaces d'un Ruffalo cabotinant à mort, en simili Trump-Musk du futur. L'Obs avec Guillaume Loison. On était en droit d'attendre bien mieux de Bong Joon-ho, auteur immense de Memories of Murder et de Parasite, que cette fable SF, malade et contrastée, qui recycle avidement ses thèmes de prédilection, anti-impérialisme, mélancolie du monstre, lutte des classes, sans parvenir à installer le moindre enjeu d'envergure. Et enfin, Les Échos, avec Olivier De Bruyne, le cinéaste coréen Bong Joon-ho, auteur du mémorable Parasite, déçoit avec son nouveau film tourné aux États-Unis.
Voilà, ça s'appelle Mickey 17. En français, Mickey 17, sinon c'est Mickey 17. C'est proposé aux cinéastes en VO, aux Pathé Quinconce et Omega CGR en VO et VF. Donc c'est un vrai film d'anticipation, un film de science-fiction original. On est dans un futur pas très très lointain. Il me semble que j'ai vu que c'était en 2054, mais bon, c'est à vérifier ça. Et donc pour échapper à ses créanciers qui ne lui feront pas de cadeaux s'il ne peut pas les rembourser, Mickey c'est un brave type, assez ordinaire, hein, rien d'un super-héros. Donc voilà, décide de prendre part à une mission d'exploration et de colonisation d'une planète, une planète extraterrestre, même en dehors du système solaire. Et pour être certain d'être pris, eh bien il signe un contrat afin d'être un remplaçable, expendables in English, sans lire les petites lignes, et il a tort. Et il se place ici dans la position d'un employé de Kenneth Marshall, un richissime et mégalo homme politique à l'origine de la mission, et donc ce Kenneth Marshall prend d'ailleurs la tête de la mission et en fait partie. Alors c'est ainsi que notre brave Mickey devient une sorte de cobaye humain destiné à mourir en réalisant des expériences. Oui, parce que tout simplement, au cours de la mission, il y a des expériences à mener et à chaque fois, ben, il meurt et il est réimprimé. On va pas dire cloné parce que le terme égal, c'est réimprimé avec sa mémoire ancienne. Donc, il sait très bien qu'il a vécu tel événement et que là, ben, il est reparti pour un tour. À la 17e fois, d'où le terme Mickey 17, eh bien, à la 17e fois, toutefois, il y a un bug qui se produit et un Mickey 18 est créé alors que le 17 n'est pas mort. Il devient ainsi un multiple. Alors là, la loi interdit qu'il y ait des multiples. Vous allez voir le film, vous comprendrez pourquoi. Alors on ne va pas en dire davantage et raconter tout le film. Sachez que la nouvelle situation, Mickey 17 et Mickey 18, va provoquer un bel imbroglio. Donc c'est un film qui aborde de très nombreux thèmes, comme celui de l'expérimentation humaine, de la colonisation et de l'immigration, et de façon prémonitoire, à travers le personnage de Marshall et de sa femme, celui de l'ambition politique et de ses délires qui vont avec. Ce dernier personnage est incarné par Mark Ruffalo, qui est un mélange d'Elon Musk, pour cette volonté d'implanter les humains sur notre planète, de télévangéliste pour sa rhétorique emphatique et complètement débridée, et de Trump pour son cynisme démesuré et son despotisme outrancier. Voilà donc ce qu'on peut dire de ce Kenneth Marshall, qui est un personnage tout aussi important que Robert Pattinson dans le film. Alors Robert Pattinson, lui, joue un personnage attachant, c'est le rôle du film. C'est pas du tout un super-héros, je vous l'ai dit, hein. C'est un type d'abord totalement désabusé, mais amoureux, parce qu'il rencontre l'amour dans cette mission. Et puis, il est confronté au double, à son double, Mickey 18, qui a un caractère complètement opposé. Et donc, à ce Mickey, il va lui arriver des choses complètement insensées. Donc c'est un film qui mélange les genres et qui mélange les ruptures de ton. On est à la fois dans les films d'action pure, parce qu'il y a de l'action pure comme dans un vrai blockbuster, de science-fiction, de comédie aussi, parce que y a d'humour, hein, un humour même très noir, mais il y a de l'humour. Et puis aussi une réflexion métaphorique sur notre monde, ses travers. Il y a un début très réussi, donc, avec un humour féroce. Puis, après, il y a des baisses de rythme, des ventres mous, et les 10 dernières minutes sont pour moi sans intérêt. D'où un film qui est trop long, 2h17, c'est trop long. C'est sur courant alternatif. Il y a une vraie originalité dans le récit, mais j'ai quand même un avis mitigé, mitigé quand même. Je ne suis pas aussi enthousiaste que pour un film comme Parasite, qui était le précédent, ou le Snowpiercer, que j'avais beaucoup apprécié. Voilà, Mickey 17, proposé par les cinéastes, le Pathé Quinconce et le Méga CGR. On repart au cinéaste avec Black Dog. Black Dog, c'est un film chinois. Son réalisateur, Yu Hu Guan, réalisateur, scénariste, producteur, né en 68. Les films qu'il a réalisés auparavant, aucun n'a été distribué sur les grands écrans français. Il en a fait plusieurs, mais soit ils ont été inédits, soit distribués uniquement en DVD. Le film dure 1h50, il est donc, je répète, proposé aux cinéastes. Attention, il n'y a pas de séances très nombreuses, hein, une séance ou deux séances par jour, guère plus. 1h50 pour ce film. Lang revient dans sa ville natale aux portes du désert de Gobi, alors qu'il travaille pour la patrouille locale, chargé de débarrasser la ville de chiens errants. Il se lie d'amitié avec l'un d'entre eux, une rencontre qui va marquer un nouveau départ pour ces deux âmes solitaires. Alors, le titre original, c'est Gu Zhen. Mais est-ce que Gu Zhen veut dire Black Dog?
Alors là,
je n'en sais rien.
Je ne parle pas chinois.
Nicolas Jeunex, dans Positif, dès sa stupéfiante première séquence, le récit nous agrippe pour ne plus nous lâcher, porté par le charisme de son acteur principal, Eddie Peng, flanqué d'un lévrier noir tout aussi mémorable. Tu confirmes, Pierre, que le lévrier est mémorable?
Bah oui, j'en parlais un petit peu, d'accord, puisque j'ai été le voir.
Thierry Méranger, Cahiers du cinéma, Black Dog impressionne dès son premier plan, là aussi, qui transforme la beauté désolée du désert de Gobi en un terrain de jeu cinématographique sans pareil. Aurélien Allain dans Cinématiseur, hanté par le deuil, la culpabilité et l'envie de tourner la page, Black Dog crée de pures images de cinéma, vibrantes, marquantes, évocatrices, comme autant de pansements sur les plaies du monde et de ses personnages. Céline Roudin dans La Croix, décor de western, zoo à l'abandon, cirque ambulant, donne au film une dimension à la fois hallucinatoire et éminemment poétique. Stéphanie Belpeche, le Journal du Dimanche, elle est bluffée par l'ampleur de la mise en scène, la splendeur de la photographie et l'émotion qui se dégage de cette histoire simple mais essentielle. Et on continue dans les éloges avec Clarisse Fabre dans Le Monde. Le film nous aimante dans ses accès de noirceur millimétrés, dans son minimalisme et ses bouts de scène jamais filmés in extenso. Ainsi, morcelée, l'expérience visuelle nous rend attentifs à chaque image manquante et au moindre signe. Le Point, avec son amplitude visuelle et ses confrontations sur fond de ciel délavé, Black Dog est le meilleur western qu'on ait vu depuis longtemps, ce qui lui a valu le prix Un Certain Regard au dernier festival de Cannes. L'éloge Jimmy Battista dans Libération, donc auréolé du prix Un Certain Regard à Cannes, le nouveau film du cinéaste chinois Guang Hu raconte avec habileté et justesse le lien entre un marginal et un chien dans l'ahurissant décor naturel du désert de Gobi. Et on va terminer avec Frédéric Foubert dans Première. Les thèmes sont classiques, la rédemption, la réinvention de soi, mais la puissance plastique impressionne. Alors Pierre ?
Alors, ce film n'est pas du tout typique du cinéma asiatique courant, du genre lenteur, parfois statique, avec de longs plans séquences. Non, ce film a beaucoup de rythme dans le montage, notamment, les plans changeant sans cesse et vite, et finalement, les presque deux heures passent assez vite. Pourtant, cette histoire d'amour entre un homme et un chien aurait pu devenir ennuyeuse. Eh bien là, pas du tout, il n'en est rien. Cette histoire se passe près du désert de Gobi, on l'a entendu dans les critiques, en 2008, année des Jeux Olympiques de Pékin. Je le précise car il est fait souvent allusion à ces Jeux Olympiques dans le film. Ce film présenté au dernier Festival de Cannes a donc obtenu le prix de Un Certain Regard. Et je voudrais citer pour finir le mensuel VO du grand cinéma chinois à la mise en scène virtuose. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que j'ai été super emballé, mais bon, juste que j'ai aimé.
Eh bien, c'est déjà pas mal. Oui. Voilà. Black Dog, c'est au cinéma. Hein. C'était avec une ou deux séances par jour. Pause musicale, je vous l'ai dit, on va aller explorer la BO du film Mickey 17. Eh bien, deuxième extrait, cette fois-ci, ça s'appelle Multiple, et c'est sur Radio Alpa, sur 7.3 FM Le Mans. Multiple, c'est composé par Young Jelly, je pense que ça se dit comme ça, et c'est un titre que l'on entend dans le film Mickey 17. Le secret de Khéops, le secret de Khéops est proposé au Colisée, au Pathé Quinconce et au Méga CGR. C'est un premier film de l'actrice Barbara Schulz qui passe derrière la caméra, réalisatrice scénariste, mais pas actrice dans le film. Elle est née en 72, elle avait réalisé auparavant un court-métrage, son premier long, on l'a vu actrice dans Le Voyage en Pyjama. Oui, le film qui a été tourné dans la Sarthe de Pascal Thomas.
Je l'ai vu.
Dans Bernadette, alors rien à voir avec Bernadette Soubirous, mais Bernadette Chirac. Et puis dans Super Bourré, alors le titre n'est pas bon, hein, Super Bourré, mais le film n'était pas si mal que ça. Voilà, Pierre, parle-nous du secret de Khéops.
Durée 1h38 avec Fabrice Lucchini, Julia Piaton et Gavril D'Artevel. Le synopsis, soyez patient, il est long. Le trésor du pharaon Khéops a-t-il été découvert pendant la campagne d'Égypte de Napoléon ? Ramené en France, puis caché à Paris, point d'interrogation. Christian Robinson, archéologue flamboyant aux méthodes peu orthodoxes, en est persuadé depuis la découverte d'une mystérieuse inscription lors de nouvelles fouilles au Caire. Bien décidé à déchiffrer les indices laissés par Dominique Vivant Denon, le premier directeur du Louvre, Christian Robinson se lance alors dans une quête du trésor hors du commun à travers Paris, des archives poussiéreuses du Louvre, jusqu'au cabinet secret de la Malmaison. Il embarque dans son aventure sa fille et son petit-fils dans l'espoir insensé de réaliser à Paris la plus grande découverte archéologique du XXIe siècle. La revue de presse, Le Figaro, une pépite de naïveté, de drôlerie et d'entrain pour toute la famille, parfait et lumineux antidote en ces temps bien sombres. Première avec Thierry Chaise, un sentiment exacerbé par le one-man show de Lucchini, son énième imitation de Johnny par exemple, qui ravira ses inconditionnels, mais donne au film des airs de déjà beaucoup trop vu, qui en sape l'énergie comme la générosité. Je vais me rapprocher de cette deuxième critique tout à l'heure. C'est fini.
Télérama aussi. Télérama, Cécile Mury. Fabrice Lucchini prend toute la place dans le premier film de Barbara Schulz, au scénario linéaire, comme un papyrus. Et enfin, Xavier Le Harper dans L'Obs. On aurait envie de l'accompagner dans cette comédie policière de réconciliation atrabilaire entre un père égotiste et égyptologue, Fabrice Lucchini en roue plus que libre, et une fille, Julie Piaton, un peu trop sage, ne lui ayant jamais pardonné ses absences. Le tout sur fond d'intrigue à la Tintin, de la quête du trésor, des malfrats inquiétants, d'énigmes historiques et d'escape game. Ben, c'est une sympathique, mais un peu trop longuette hein, sur la fin. Chasse au trésor, mêlant aventure et récit familial. Et alors ici, il s'agit de la quête du mythique trésor de Khéops, que l'archéologue français Christian Robinson pense pouvoir trouver à la suite d'indices découverts lors d'une fouille sauvage en Égypte et qui va le ramener en France après une longue absence. En effet, il ne fait aucun doute pour lui que le savant Dominique Vivant-Denon a ramené ce trésor à Paris après la campagne menée par Bonaparte en Égypte. Commence alors une chasse au trésor où se mêlent trafiquants d'antiquités, services de police, mais surtout toute la famille Robinson, sa fille avec qui Christian, le père, est en froid depuis de nombreuses années. Elle lui reproche ses absences, notamment dans sa jeunesse, et puis son petit-fils dont il fait son complice. Alors c'est plaisant, il y a l'humour à travers quelques répliques drôles, mais on n'est pas du tout chez Indiana Jones. Hein, côté action, ça reste très 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 plan-plan. Le film étant essentiellement basé sur une suite d'énigmes à résoudre qui au passage permettent d'évoquer un certain nombre d'anecdotes historiques, vraies d'ailleurs, sur la première moitié du 19e siècle en France. Alors on suit le principe tout simple de s'instruire en s'amusant ainsi, donc voilà. Alors le film fait aussi voyager puisqu'on va de l'Égypte au souterrain de la colonne de la Bastille en passant par le Louvre, la Malmaison, le cimetière du Père-Lachaise, donc voilà, on se balade. Le duo Lucchini-Julia Piaton fonctionne bien. En mode un peu screwball comédie, c'est-à-dire qu'il se renvoie la balle un petit peu. Ça donne à l'arrivée une joyeuse comédie d'aventure, pleine d'entrain, un peu dans l'esprit de ce que faisait jadis Philippe de Broca, en moins virevoltant, toutefois, mais avec le goût de la fantaisie, bon enfant. Alors, on s'étonne quand même un petit peu que Barbara Schulz ait choisi une telle histoire pour un premier film, mais après tout, pourquoi pas. Voilà, donc Pierre, qu'en penses-tu de ce secret de Khéops?
Alors, on est là entre Indiana Jones, que tu as cité, et les aventures de Tintin, genre, par exemple, les cigares du pharaon. D'ailleurs, curieusement, il est fait allusion à Tintin, justement, vers la fin du film. Mais là, c'est nettement moins bien. L'intrigue, ou l'enquête, si vous préférez, traîne en longueur et c'est un peu laborieux au niveau du suspense. Fabrice Lucchini, qui est au centre de l'histoire, en fait des tonnes, un peu trop à mon goût. Le montage, quant à lui, m'a un peu embrouillé au début du film, sans transition. On passe presque d'une histoire à une autre. J'étais un peu paumé. Alors, on comprend ce qui se passe un petit peu plus tard, quand même. Je dirais que ce scénario aurait convenu pour un téléfilm à épisode, pour tenir un tant soit peu le spectateur en haleine. Donc, ma conclusion est, c'est pas top.
C'est pas top. Bon, ça s'appelle Le Secret de Khéops. C'est proposé par le Colisée, le Méga CGR et le Pathé Quinconce. Le système Victoria, en revanche, est proposé uniquement par le cinéma Les Cinéastes, avec, ma foi, deux séances par jour. C'est un film réalisé par Sylvain Descloux, réalisateur scénariste qui a à son actif déjà 4 ou 5 films, un court-métrage, et puis en 2015, Vendeur, un film avec Gilbert Melki et Pio Marmaille, qui n'était pas si mal que ça. Des documentaires, en 2019, La peau dure, peut-être inédit, 2021, La campagne de France, ça a été proposé au cinéaste, et puis en 2023, moi j'avais beaucoup aimé un film qui s'appelait De grandes espérances, avec Rebecca Marder et Benjamin Laverne. Parle-nous de ce système Victoria, Pierre.
Durée 1h41, avec Damien Bonnard, Jeanne Balibar et Cédric Apieto. Le synopsis, directeur des travaux, David est à la tête du chantier d'une grosse tour en construction à La Défense. Retard insurmontable, pression incessante et surmenage des équipes, il ne vit que dans l'urgence. Lorsqu'il croise le chemin de Victoria, ambitieuse DRH d'une multinationale, il est immédiatement séduit par son audace et sa liberté. Entre relations passionnelles et enjeux professionnels, David va se retrouver pris au piège d'un système qui le dépasse. La revue de presse, Elle, avec Françoise Delbecq, un thriller exaltant. Le Parisien avec Grégory Plouviez. Les comédiens, Damien Bonnard et Jeanne Balibar, sont convaincants. Les rouages du scénario s'imbriquent avec fluidité. La sensualité s'impose, malgré une mise en place d'une froideur au diapason d'un script cérébral et distancié. Marianne avec Olivier De Bruyne, un film grinçant sur la sauvagerie économique et sociale. La Croix avec Cécile Rouden. Après de grandes espérances, Sylvain Descloux adapte le roman d'Éric Reinhardt sur la relation sulfureuse entre un architecte raté et une femme puissante. Mais il ne parvient pas à en restituer toute la troublante ambiguïté. Ouest France avec Pascal Vergerot. On aime la façon de filmer et d'opposer les milieux du bâtiment, des affaires et du luxe dans lesquels se déroule cette histoire. Le jeu subtil de Damien Bonnard, on aime moins. Le côté attendu de nombreuses situations peut être lié à la présence d'une Jeanne Balibar trop fidèle à son registre de femme fatale. Première avec Thierry Chaise, un film en totale prise sur notre époque et par là même glaçant et oppressant. Le journal du dimanche avec Béatrice Théâtre, on est d'abord séduit par l'étrange relation qui se noue entre ces deux personnalités que tout oppose, aussi bien humainement que socialement, interprété avec une belle complexité par Jeanne Balibar et Damien Bonnard, mais l'intensité entre eux se délite trop vite par manque de crédibilité et l'intrigue court finalement assez court. Positif avec Raphaël Sergent, passer une première demi-heure intrigante qui parvient à infuser peu à peu une dose de suspense dans cette tranche de vie naturaliste, la multiplication des fils narratifs tiré avant d'être abandonné en cours de route, finit par émousser l'intérêt. Et je vais terminer par ceux qui n'aiment pas, Guillaume Loison pour l'Obs. Le problème, ici, est que tout est joué d'avance et que le film, plombé par une gravité de petit séminariste, se borne à touiller un mystère éventé jusqu'à flirter avec le grotesque, le dernier quart d'heure passablement gratiné, moralité, trop de système tue le système. Et enfin, Le Figaro, avec Eric Neuhoff, Damien Bonnard et Jeanne Balibar peinent à rendre passionnante cette plongée dans les dessous du BTP. Après l'original et stimulant de grandes espérances, ce système Victoria déçoit.
Le système Victoria est proposé uniquement aux cinéastes, 2 séances par jour, donc sous la pression permanente de ses donneurs d'ordre, David, qui est un directeur des travaux sur la construction d'une grosse tour à la Défense, est au bord de craquer et de donner sa démission tant il est débordé, hein, les délais totalement inatteignables, les équipes surmenées. Et à ce moment-là, ben, il fait la connaissance de Victoria, la DRH d'une grosse boîte qui va le rebooster, lui redonner confiance, le fasciner aussi par sa liberté, et avec laquelle il va désormais entretenir une relation amoureuse passionnelle, lui, l'homme divorcé, qui a la garde de sa fille de 10 ans. Mais, s'il ne démissionne donc pas, il va se retrouver piégé dans un système qui le dépasse, entre promoteur et propriétaire aux intérêts divergents. Donc c'est un film sur la relation toxique au travail d'un cadre manipulé, à son insu évidemment, et qui ne s'en rend compte que trop tard. À ce titre, le spectateur observe le film uniquement du point de vue de David, hein, donc on est dans la peau du personnage, et bon, la manipulation, on l'a saisie en même temps que lui. À un moment, le film, je trouve, tourne un petit peu en rond, se répète, mais il rend quand même parfaitement compte de la pression exercée sur un homme. Cet homme, c'est Damien Bonnard, un type qui a tout sacrifié à son travail, qui croit vivre une histoire d'amour différente, avec une femme forte qui mène le jeu. Cette femme, bien, c'est Jeanne Balibar, parfaite, elle aussi, en femme libre, femme audacieuse, femme fascinante. Toutefois, le film reste ambigu parce que, ben, il n'est pas clair sur le fait que cette manipulation, ben, on ne sait pas si elle est préméditée ou opportuniste. Et cette ambiguïté persiste jusque dans l'épilogue. Alors, cette ambiguïté, elle est sans doute volontaire, hein, ça, je n'en doute pas. C'est un film aussi avec pas mal de non-dits, et donc c'est au spectateur de se faire peut-être sa propre conviction sur ce qui se passe vraiment à l'écran. Donc, c'est un polar politico-social ou sociopolitique, je ne sais pas comment on doit dire, qui parle d'un monde du travail brutal, sans scrupules, où les petits se font exploiter par les gros. Alors ça, c'est pas nouveau, mais ici, les petits, c'est quand même des cadres supérieurs, hein, c'est pas les ouvriers ou les employés. C'est la partie la plus réussie du film, le côté sensuel, passionnel, érotique de l'histoire, m'ayant beaucoup moins convaincu. On peut quand même aller voir le film, ça se regarde sans ennui, mais bon, c'est pas non plus absolument indispensable d'aller voir ce système Victoria. Je dirais que là aussi, c'est mitigé plus, quoi, en quelque sorte. Alors, j'ai dit qu'il n'y avait pas beaucoup de musique dans les, beaucoup de chansons dans les films que j'ai vus cette semaine. On entend quand même cette chanson, pas dans cette version, mais au début du film, Le Secret de Khéops. C'est une chanson d'AC/DC.
Oui.
Dans le film, c'est la version live. Là, c'est la version pas live, la version studio. Ça s'appelle Jailbreak et c'est sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. There was a friend of mine on murder. And the judge's gavel fell. Jury found him guilty. Gave him 16 years in hell. He said, I ain't spending my life here. I ain't living alone. Ain't breaking no rocks on the chain gang. I'm breaking out and heading home. I'm gonna make a jailbreak. And I'm looking towards the sky. I'm gonna make a jailbreak. Jailbreak AC/DC. On entend une version live dans le film, au tout début du film, Le Secret de Khéops. Je pense que les amateurs le savent, AC/DC sera au Stade de France cet été.
Ah oui.
Ça doit être leur tournée d'adieu, je pense, parce que, bon,
ils ont un certain âge.
Oui, voilà, exactement. Voilà. Mm. Bon, encore que ça conserve l'Europe.
Tiens, bah, pendant qu'on y est, Diana Ross va venir à Paris aussi.
Et j'ai déjà ma place.
Ah, super!
Ah oui, 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 oui. Absolument. Donc, c'est en début juillet, oui.
Je ne me souviens pas de la date.
Si, moi, j'y vais, donc j'ai ma place, moi.
Ouais.
Donc. Alors, In the Lost Lands, c'est un film de Paul W.S. Anderson, à ne pas confondre avec Paul Thomas Anderson. Ce Paul W.S. Anderson, c'est un réalisateur, scénariste, producteur britannique, né en 67. Il n'a pas que des chefs-d'œuvre à son actif. Hein. 95, Mortal Kombat, avec Christophe Lambert. Christopher Lambert, on peut dire aussi. Hein. 97, Event Horizon, avec Laurence Fishburne et Sam Neill. C'était sous-titré Le vaisseau de l'au-delà. Et puis, c'est lui qui est le réalisateur de la série Resident Evil avec Mila Jovovich, qui est d'ailleurs sa compagne à la ville. Alors, Resident Evil, ça commence en 2002 avec donc Mila Jovovich et Michel Rodriguez. 2004, Alien vs Predator avec Lance Henriksen. 2008, Course à la mort avec Jason Statham. 2010, Resident Evil Afterlife 3D. 2011, Les Trois Mousquetaires. Pas une très très bonne version, il faut lui reconnaître, avec Mila Jovovich. 2012, Resident Evil Retribution, avec toujours Mila Jovovich et Michel Rodriguez. 2014, Pompéi, avec Kit Harington et Carrie Anne Moss. 2016, Resident Evil Chapitre Final. Et 2020, Monster Hunter, avec Mila Jovovich, Tony Jaa, envoyé directement en VOD. In the Lost Lands, c'est proposé uniquement par le cinéma, le méga CGR. Ça dure 1h41 et c'est interdit moins de 12 ans. Et c'est donc avec Mila Jovovich, bien sûr, et Dave Bautista. Une reine pactise avec la puissante et redoutée sorcière Grey Alice, afin qu'elle lui rapporte un trésor capable de lui conférer un pouvoir immense. Alice et son guide, le vagabond Boyce, doivent s'aventurer dans les dangereuses contrées perdues, The Lost Lands. Là, ils devront déjouer et combattre hommes et démons pour honorer leur part de contrat. Bon, sans que ça ait de l'héroïque fantasy, en quelque sorte. Hein. Alors, Geoffrey Crété dans Écran Large, si vous pensez que Paul W.S. Anderson est l'antéchrist du 7e art, In the Lost Lands n'y changera rien. Si vous avez un faible pour les acteurs des Resident Evil, vous serez un poil déçu que ce soit si simplé et nettement moins amusant que prévu. Sylvestre Picard en première, maladroit et mal fichu, le nouveau film de Paul W.S. Anderson n'est pourtant pas dénué d'une poésie, jolie poésie nanarde. Télérama, Augustin Pietron Locatelli, ce nanar post-apo, apocalyptique, fantasy, avec Mila Jovovich, s'avère bien pire que prévu. Alors, il y en a un qui trouve que c'est pire que prévu, l'autre qui trouve que c'est mieux que ce qu'il attendait. Je ne suis pas allé le voir, j'aurais pu, hein, là, ça, techniquement, j'avais la possibilité d'aller le voir, mais franchement, pas du tout motivé quand j'ai vu le synopsis de ce film, In the Lost Land, interdit moins de 12 ans, uniquement Omega CGR. On peut penser que ça n'est qu'en version française. Dans la cuisine des Nguyen, la cuisine Nguyen, c'est un film qui est proposé par le Colisée. C'est un film de Stéphane Lee Kuong. Ça doit être son premier film, Stéphane Lee Kuong, acteur, réalisateur, scénariste français. Il est acteur dans Emilia Pérez, paraît-il. Bon, et c'est son premier long métrage après trois courts métrages. 1h39 pour ce film avec Clotilde Chevalier. Yvonne Nguyen, jeune femme d'origine vietnamienne, rêve d'une carrière dans la comédie musicale aux grandes dames de sa mère, qui préférerait la voir reprendre son restaurant en banlieue. L'intimité de la cuisine entre plats familiaux et recettes traditionnelles leur permettra-t-elle enfin de communiquer, se comprendre et s'accepter? Donc, 1h39, Le Figaro. Cette difficile recherche de modèle quand on baigne dans deux cultures est au cœur du film de Stéphane Lee Kuong. Ce long métrage parvient à la fois à toucher et à réjouir celui qui le regarde, évacuant prestement la mièvrerie à coups de paillettes dorées et de quelques chansons. Eh oui, c'est une comédie musicale. Baptiste Thion, Journal du Dimanche, une comédie pop au dialogue savoureux, tendre et piquante à la fois, où l'on s'attache à son anti-héroïne bien incarnée. Adrien Gombeau, Les Échos, un film original et attachant qui pointe du doigt les clichés orientalistes. Camille Nevers dans Libération, une comédie musicale insolite et réjouissante. Premier long métrage de Stéphane Lee Kuang. Boris Malène dans Première, pas de colère ici ou presque. Le film carbure à la douceur et l'optimisme avec ses numéros musicaux enjoués. Ah oui, c'est aussi une comédie musicale qui jouit des clichés du genre autant qu'elle les détourne. Et ses séquences burlesques, prenez garde, la chanson des NEM vous trottera quelques heures dans la tête. Je n'ai pas vu le film, donc elle ne m'a pas trotté dans la tête. Julien Barcillon dans Télé 7 jours, sous son vernis acidulé, Stéphane Lee Kuang épingle avec beaucoup d'humour, l'acrimonie n'a pas sa place, le racisme ordinaire et les préjugés tenaces sur les Asiatiques. Grégory Plouviez, le Parisien, c'est le personnage principal interprété par Clotilde Chevalier et la chronique familiale dans les coulisses de la fabrication des plats typiques dégage un capital sympathie immédiat. La tiédeur des dialogues et le faux rythme des séquences chorégraphiées peinent à séduire, un manque de piquant préjudiciable sur la longueur. Le Monde, à la fois comédie musicale et comédie sur le spectacle musical, ce premier long métrage est souvent didactique, mais il est aussi doté d'un vrai charme. Nous n'avons pas vu dans la cuisine des Nguyen.
Non.
Voilà. Allez, avant de nous annoncer les films à la fin de la semaine prochaine, on revient à la BO du film Mickey 17 avec un titre qui s'appelle Corridor of Love, toujours du même compositeur, Young Jelly, et c'est sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. Corridor of Love, un titre que l'on entend dans la BO du film Mickey 17. Alors, les avant-premières et les films à l'affiche la semaine prochaine. Avant-première, déjà, si vous nous écoutez en direct ce soir, il y a l'avant-première de Ma mère, Dieu et Silvertan. C'est à 19h30 au Pâté et à 20h30 au Colisée. Dimanche, avant-première pour On ira. Moi, j'ai déjà vu le film, c'est pas mal du tout comme film. 18h30 au Pâté, 13h40 au Méga. Et mardi, toujours au pâté, il y a beaucoup d'avant-premières au pâté, à 19h15, mais c'est là sans VF, The Insider de Steven Soderbergh. Voilà, alors donc, ça, signalant que les rétrospectives de Clint Eastwood, Chantal Akerman continuent au cinéaste. Cette semaine, c'est Sully pour Clint Eastwood et Histoire d'Amérique pour Chantal Akerman. Et les films à l'affiche la semaine prochaine, eh bien, il y aura Parthenope de Paolo Sorrentino. Je crois que ça a été présenté à Cannes, cette affaire-là. Enfin, je ne sais pas. Attention, ça fait 2h17. Le film On ira, donc, avec Hélène Vincent, Pierre Lottin. C'est de Enya Barou, je répète, je ne sais pas mal du tout. The Insider de Steven Soderbergh avec Kate Blanchett, Michael Fassbender. Reine-mère, ça sera au cinéaste avec Camélia Jordana. Délocalisé des frères Bouguereba, ils sont venus le présenter, enfin du moins Redouane Bouguereba est venu le présenter il y a quelques jours au Mans. Bon, c'est une petite comédie, bon voilà. Ces films-là, ben c'est sûr qu'ils y seront. Après, il y en aura peut-être d'autres. C'est notamment par exemple, je crois, La Convention, un film qui est proposé par les cinéastes, voilà. Bon, là, on ne parle pas de la convention, la convocation. La convocation, oui. Ça n'a rien à voir avec la convention. Voilà, donc cette semaine, Pierre, ben, il recommande quand même...
Je recommande de préférence Black Dog.
Voilà, d'accord. Bon, moi, je... Mitigé plus, mais pourquoi pas, Mickey 17, le Secret Cops, Sixième Victoire, mais rien d'absolument indispensable comme certaines semaines. Voilà, ben, nous, on se retrouve sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans la semaine prochaine pour Clap. Allez,
oui,
à bientôt, au revoir.